France Inter.
La bande originale. Oui, énorme bande originale avec Leïla, comme on vous l'a dit. Avec Bruno Pecky, Julien Santi,
Yann
Delage, Tanguy Passureau et notre invité, R. Jonathan Lambert.
Merci.
Soyez le bienvenu, merci. Jonathan.
Dans cette bandelette originale. Ah oui, c'est pas complet. Hein,
c'est-à-dire qu'un Daniel Morin vous manque et tout est dépeuplé.
Exactement.
Mais à propos de bandelette, il est parti se faire des implants en Turquie. Tiens donc. Respecté.
Ah ouais. Moi, je les ai fait en France.
Respecté.
Je suis pour le Made in France, même pour les cheveux.
Pour le poil français.
Exactement.
Qui a volé mes jambes? Il y a toutes les expressions qui sont utilisées dans ce roman photo autour de prendre ses jambes à son cou et ça me fait de belles jambes et ainsi de suite.
J'embarque.
Petit, voilà, petit tour de table des expressions désuètes. Ah. Est-ce que vous avez des expressions désuètes
spécialité.
Dont vous vous servez, toi, oui?
Oui, bien sûr.
Tu dis quoi, toi?
T'as piqué des hannetons, c'est fort de café, ça me court sur le haricot.
Ah, j'aime beaucoup.
Je suis vraiment une vieille dame.
Un vaut mieux que deux, tu l'auras.
Moi aussi, oui.
Un tien. Un tien. Déjà, oui.
C'est une version simplifiée, le pauvre.
Un vaut mieux.
C'est la fable de Jean de Lafont.
Voilà ça.
C'est, en fait, je fais tout à moitié.
C'est la racine carrée des expressions.
Un vaut mieux.
Ah oui, d'accord. Ça va pas, c'est bancal.
Bruno Pecky, est-ce que t'as une vieille expression que tu sers souvent?
Non, rapport à mon âge.
Mais si.
Tu te prends pour qui, gros?
Non, j'utilise peu de vieilles expressions, j'avoue.
Ah bon?
Rien.
J'avoue. C'est vieux.
Moi, j'ai par exemple, j'ai après la pluie le beau temps.
Ah ouais, elle est simple celle-là. Ouais,
elle est simple et elle est pratique tous les jours.
C'est indiquant.
Ouais.
Elle est symbolique aussi.
Mais non, mais je m'en sers aussi. Tu sais, quand t'as une journée de merde, tu te dis, tu sais quoi, je vais attendre minuit.
Ouais.
Ça veut rien dire, évidemment, mais c'est juste, on va passer un autre jour.
Demain sera un autre jour.
C'est un peu la même. C'est un peu la même. Hold the laugh, te cache pas.
Alors, ma vie est faite de vieilles expressions et j'adore ça. Mais peut-être ma préférée, c'est je me suis retrouvé gros Jean comme devant.
Ah ouais,
c'est vrai.
Ça.
C'est
vraiment.
Je me suis retrouvé un peu bête, quoi.
Comme
un peu,
de ronflant,
ça,
ouais.
Un peu, okay. Un peu si. Ouais.
On peut la traduire que par de vieilles expressions, d'ailleurs. C'est ça, traduit boujou meuvela aussi en Normandie, voilà. Mais j'en ai quelques-uns.
Bon, alors, et vous?
On va pas se mettre la rate au courbouillon.
Moi, j'adore.
Moi, j'aime beaucoup celle-là.
Ah ouais.
On va pas se mettre la rate au courbouillon.
On va pas se faire des soucis avant.
Oui, on va pas trop en faire, quoi. On va pas s'angoisser. C'est pas la peine d'exagérer.
Notamment pour la sortie d'un roman photo un vendredi.
Vendredi 13, tiens donc.
Ça fait beaucoup d'informations. On va en parler de ce roman photo avec un générique de star, digne des Césars. Réunir autant de grands noms de la comédie, du théâtre et du cinéma dans un roman photo qui s'appelle Qui a volé mes jambes?
Mais qu'allait-il faire dans cette galère?
Au Seuil, au studio, c'est une collection du studio Mogul. C'est combien de roman photo?
Je crois que c'est le sixième de la collection qui est dirigée par
le vôtre,
Nathalie.
C'est le deuxième, troisième?
C'est mon premier. Non, alors peut-être.
Mais non, il y en avait déjà eu un. Hein,
il se trouve moi que aussi, quand je faisais Monsieur Pringle sur Canal, c'est amusant parce que quand Nathalie Fishman m'a appelé pour réaliser un roman photo, parce que en fait c'est une nouvelle collection qui est née avec Fab Caro et Eric Judor. Ça a été un vrai carton d'édition. Ils se sont rendu compte que le roman photo était un nouveau genre et que ça plaisait énormément aux gens. Donc renouer avec ce genre-là.
J'étais sûr que vous avez déjà fait ça. Moi.
Et non, parce que quand
c'est
je faisais Monsieur Pringle,
qu'on avait fait un il y a très longtemps. Aussi.
Oui, qu'on avait reçu pour ça d'ailleurs. Ouais.
Et quand je faisais Monsieur Pringle. Sur
c'est vrai qu'ils sont à peu près la même taille.
Peut-être laisser parler l'invité, non
Qui est l'invité? Excusez-moi.
J'étais parti justement du roman photo que je voulais faire en version animée.
Ah, voilà.
Donc moi, j'ai toujours eu une passion pour le roman photo, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu kitsch, justement, désuet, et en même temps, c'est une ouverture à tous les délires possibles, parce qu'on a énormément de liberté, et quand elle m'a contacté et qu'elle m'a proposé de faire un roman photo, j'ai dit 100 fois oui.
Parfait, c'était long, alors. Cette réponse était très très longue.
Ouais.
Voici Hall de la fan, évidemment, de R. Jonathan Lambert.
Je suis fan,
de Jonathan Lambert. Si lui était fan de moi, ce serait le monde à l'envers. Vous êtes un humoriste qui change d'habit comme de chemise. Au 16e siècle, on vous aurait appelé le duc des Guises. Je suis fan de Jonathan Lambert. D'ailleurs, pour les Normands, vous êtes le calembert. Vous adorez vous glisser dans la peau des autres. Même Jean-Paul Sartre disait de vous, Lambert, c'est les autres. Et vous êtes là pour un roman photo qui peine. On a volé mes jambes, je crois que c'est les jambes urbaines. Chouette, c'est bourré de jeux de mots et le casting est l'enfer. Oui, j'avoue, j'adore les parties de Jean Blamberne. Oh, je suis fan de vous et de ce roman photo. En plus, je viens d'apprendre que pour assurer la promo, vous avez demandé à un certain Damien Baizet de chanter du Souchon sur France Inter, ça fait flipper. Je chante un baiser. Non. Je chante un baiser. Sur France Inter, j'ai débarqué pour une promo qui va foirer. Je chante un baiser.
C'est une catastrophe.
Marchant dans les dunes. Baiser. Mais sans les jambes, ça crée des lacunes. Baiser, baiser. Le corps démoli par une. Baiser. Sans les jambes, ça crée des lacunes. Oh, sans les jambes, de quoi j'ai l'air. Baiser. Mais pas d'éléphant gris. Baiser, baiser, baiser. Je vais mettre les ordures ménage à mon baiser. Et surtout, je vais vivre par terre pour baiser. C'est ce que je peux faire. Je vais baiser. Pardon. Je suis fan et comme je mange tout le temps et qu'il est l'heure, je vais vous laisser pour m'enfiler un sandwich jambes au beurre. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec Shannon, la bande originale.
Ah là
là.
Quelle folie.
Je n'ai pas de promo pour Au-delà, à part le 1er avril aux Folies Bergères.
Dans la Manche, vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui. je serai dans la Manche ce soir et je serai aux Folies Bergères le 1er avril.
Bravo.
Voilà, fin de cette émission en antenne, parce que je pense que
fin de semaine.
La direction va s'en rendre compte.
T'es fatigué.
C'est le problème du direct quand il est enregistré.
Il faut préciser que Baizet est donc l'un des personnages phares, fort et fou.
C'est mon tube.
De Herge.
C'est mon satisfaction à moi.
Mais quand je. Non, mais on a évidemment tous l'image d'une Miss qui avait eu peur au point de tomber de son siège pour un plateau télé.
Oui, absolument.
Chez Ruquier,
ouais. On n'est pas couché.
La vie, tout c'était impossible à
prendre. Revenons à ce roman photo. Donc, au-delà de la proposition faite, il faut trouver l'idée. Alors, vous êtes un homme qui aime l'art
c'est
moderne.
Ça, ouais. L'idée, elle est née. En fait, quand on m'a contacté, ça coïncidait avec un moment où je voulais produire un documentaire autour de Pierre Molinier, qui est un artiste.
Photographe,
enfin peintre également, mais il s'est consacré beaucoup à la photo à la fin de sa vie, qui faisait des photos.
De lui, non ?
De lui, mais assez surréaliste en fait, parce que c'était des montages photos où il découpait. Il trouvait qu'il avait très belles jambes, il avait un petit côté fétichiste sur ses jambes, donc il faisait des découpages où il démultipliait ses jambes autour de lui et ça créait des images. À la fois un peu érotique, mais surtout très très jolie. Oui, et très...
On a l'image d'un peu de Vishnu avec
tous
ses bras.
Oui, c'est ça, des déesses un peu,
des jambes,
des divinités hindoues.
Généralement avec des talons fétichistes un peu érotiques.
Et un peu érotiques. Il y en a même qui sont très explicites.
Ton micro était ouvert. Hein,
oui. Mais toujours est-il qu'il a été reconnu par notamment André Breton, adoubé par Breton. Il a fait partie des surréalistes, il a exposé quand même avec les plus grands. Il est aujourd'hui dans les plus grandes collections de musées, que ce soit... Il y a eu une rétrospective à Beaubourg en 79, il a été exposé, que ce soit à New York, à Tokyo, et il se trouve qu'il s'est donné
la mort. Qu'est-ce qui vous a ému, pardon ? Oui.
Moi, j'ai eu un choc visuel en voyant ces photos. Alors, je parle des photos qui sont vraiment très esthétiques plus qu'érotiques, parce que je trouvais qu'elles étaient très très belles et que ce sont des photos comme quand on voit aujourd'hui une photo de Gilbert and George, par exemple, on la reconnaît tout de suite, on les identifiait, il y avait une façon de photo.
Une patte pour quelqu'un qui fait des jambes.
Exactement. Voilà, une patelette très... très
reconnaissable. Et il s'est donné la mort comment ?
Alors,
pardon,
c'était un provocateur, il s'est donné la mort, il s'est mis du vernis sur les ongles des pieds avant de se donner la mort. Il s'est mis des porte-jartels et il a rédigé une lettre qui était assez comique parce qu'il jouait avec ce côté sulfureux et très très provocateur. Et donc il se donne la mort en 76 en mars 76.
La journaliste que je connais par cœur n'a toujours pas la manière dont.
C'est bien, mais ça va venir.
Ah, il s'est, ici, il s'est tiré une balle.
Ah, voilà.
Ah, voilà.
Ouais, ouais, c'est décevant.
Je te jure qu'il n'allait pas le dire.
C'est vrai.
Ouais, ouais.
Non, mais il a laissé une lettre à l'intention du médecin légiste.
Donc on a retrouvé un trou de balle entre ces deux jambes.
Oh là là.
Enfin, deuxième, du coup.
Et que disait-il dans la lettre?
Non, mais il disait qu'il emmerdait tous les cons qui n'avaient pas compris son art. Enfin, c'était un jusqu'au boutiste. Et donc, moi, je veux produire un documentaire autour de cet artiste.
Ok.
À l'occasion des 50 ans de sa disparition, donc mars 76, donc mars 26. Finalement, c'est trop chronophage, ça prend trop de temps. Et au même moment, Nathalie Fischmann me propose d'écrire un roman photo, un peu comme ceux qui ont été faits précédemment. Donc je parlais de Fab Caro, mais voilà, il y en a plusieurs qui l'ont fait, Nora Jewi, dernièrement.
Ouais.
Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'un personnage qui se prend pour la réincarnation de Molinier, qui vit avec une paire de jambes de mannequin et de raconter la vie de ce misanthrope qui vit avec cette moitié particulière.
Mais qui est comptable quand même.
Mais qui est comptable.
Il a une vie, il a une double vie.
Voilà, il y a un petit univers Houellebecquien qui ajoute un petit peu au charme du personnage.
Oui, enfin, qui est moins désespéré que Houellebecq, quand même.
C'est vrai. Un peu moins. Un petit peu moins. Ouais. Et puis, il y a plus dedans.
Ah. Sûrement.
Ton micro est toujours ouvert. Bah, hein,
là, c'était volontaire.
Un roman photo, ça s'écrit comme un scénario de film, ou ça s'écrit d'abord comme des sketchs, et il y a une part d'improvisation. Parce que ce qui est fort dans une photo, c'est qu'on peut aussi lui faire dire, par des regards, par des postures, un tout petit peu ce qu'on a envie de voir et de comprendre.
Ouais, mais alors, pour répondre à la première question, ça s'écrit vraiment comme un scénar, c'est-à-dire que moi j'ai fait tout un séquencier avec intérieur, nuit, okay. Il a fallu faire le repérage, trouver les décors, trouver les costumes, ouais. faire le casting, et il faut savoir qu'on shoot tout ça en 6 jours avec Stéphane Gladieux, qui est un photographe assez génial, qui a exposé à Arles, mais qui a fait la dernière photo du pape François, donc se retrouver à photographier un petit peu avec des jambes comme ça...
C'est gênant.
Ouais, c'est ça, c'est... dit, quel dommage, j'ai envie de dire pour lui. Mais non, c'est, il faut préparer tout ça.
Il paraît que vous faites un documentaire sur la fin de carrière.
La mienne en même temps, du coup. Mais ça, tout ça pour dire que ça se prépare. C'est vraiment comme un tournage, parce qu'on fait à peu près 1000 photos par jour pour en garder 70, 80. Donc, je vais même au-delà de ça. C'est que moi,
heureusement qu'on n'est plus à l'ère de la pellicule et qu'on est passé au numérique.
C'est ça. Et surtout, heureusement qu'on fait un storyboard que j'ai fait.
Okay.
Parce qu'il faut que chaque photo, c'est pas un hasard, on se dit pas, tiens, peut-être c'est joli, on va le faire comme ça. Non, il faut que chaque photo, on sait précisément. Ouais. Moi, j'ai fait auparavant la centaine de pages, je les ai dessinées avec les cases.
Alors, pardon, quel est le travail du photographe si c'est vous qui décidez du cadre, de la mise en scène et peut-être même des surprises qu'il peut y avoir en arrière-plan. Il y a des noms de dossiers qui sont amusants dans le dos du comptable et ainsi de suite. Tous les détails comptent.
Bah, vous avez raison.
pourquoi ne pas l'avoir fait vous-même?
Mais bien évidemment, parce qu'il faut. Il y a des très belles photos et que je peux pas tout faire.
Je
et
ne
que
dis pas le contraire.
Je voulais confier ça aussi, avoir un regard, parce que si parfois il va dire, fais une expression plus comme si, ou peut-être que là, finalement, t'avais dessiné ça. Il y a quand même une marge de manœuvre, mais il faut qu'on ait cette espèce de journal de bord qui nous permet d'être le plus efficace possible, parce qu'on a très très peu de temps, très
Donc
peu de moyens.
Y a-t-il, comme vous aimez de temps en temps, une part à l'improvisation quand même, ou au contraire, là, comme on est dans le roman photo, c'est relativement figé?
Non, il y a
sans...
franchement, il y a très peu d'improvisation, et ce qui est génial aussi, c'est de jouer. Le jeu de la comédie du roman photo rappelle un peu, c'est le cinéma muet, il y a un côté très expressionniste, très exagéré. Et à l'inverse, c'est assez marrant parce que parfois on peut avoir une expression très neutre et la bulle raconte, il y a une sorte de décalage entre ce qui est dit, ouais. Et c'est aussi très drôle.
Alors, il y a, on cite et on met comme un qualificatif le fait que ce soit un roman photo, mais est-ce qu'il y a un genre dans le roman photo? Parce que ça reste une histoire, ça reste un thriller, ça reste une enquête,
ouais.
Avec des vannes, avec de l'humour, avec des situations comique avec beaucoup de personnages, mais quand vous dites ça reste un roman photo,
des romans photos d'amour un peu,
ouais, c'est ça. Il y a plusieurs genres. Il y a eu le genre roman photo, nous deux, qu'on a tous connu, qui existe encore, qui a bercé je sais pas combien de personnes. Enfin, c'était extrêmement populaire, le roman photo, et je pense même que quand les gens n'avaient pas tous la télé, parce que ça existe depuis assez longtemps, c'était l'occasion de suivre peut-être des saupes, des feuilletons.
Et il y en avait déjà qui étaient décalés à l'époque, dans différents et revue surtout... Harakiri, évidemment.
Ah, bah, bien sûr, très vite on s'est emparé parce que c'est quelque chose de très populaire, donc c'est très amusant de jouer avec une référence ultra populaire. Mais il y a effectivement voilà, des romans photos qui étaient plus sur... alors très souvent c'était l'amour, ou il y avait des trucs très... c'était soit histoire d'amour, soit le côté roman policier.
Donc votre choix était d'être dans la comédie et l'enquête, parce qu'il fallait trouver
un
fil.
Bah, je voulais qu'il y ait une vraie histoire, c'était pas un prétexte pour faire des photos marrantes. J'ai vraiment construit
ça, vous
l'histoire.
Faites en vacances. Voilà. Vous n'avez pas besoin de...
J'ai vraiment voulu construire une histoire, un genre d'enquête, une sorte d'enquête policière. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent, écoute, c'est assez étonnant parce que c'est bien ficelé, on suit l'enquête. Il y a quand même un truc. Bon, c'est pas le silence des agneaux, mais quand même, il y a des références et il y a toute une construction. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce roman photo et je suis très heureux parce que c'est surtout un exercice de grande liberté.
C'est réussi.
Et je sais que j'aurais jamais pu le faire, par exemple, au cinéma. Enfin, c'est la liberté qu'offre ce genre-là.
C'est réussi en tout cas parce que c'est drôle. Et puis, en effet, moi, j'ai vécu vraiment quand je tournais les pages en me disant qu'est-ce qui va encore se passer. Et puis surtout, il y a un casting de ouf. C'est une réussite. Ça s'appelle donc Qui a volé mes jambes. C'est le seuil dans la collection Studio Mogul qui produit et qui publie ce roman photo de R. Jonathan Lambert. Tout de suite, voici Bruno Pecky parce que
vous
n'auriez pas fait un roman photo comme ça, vous.
Mais évidemment que non, j'aurais pas fait comme ça.
Parce que moi, Jonathan, si j'avais fait un livre comme le vôtre, j'aurais invité Oldolaf. Ah bah c'est pas vous qui l'avez récupéré la petite cuillère ce matin, il broyait du noir dans son coin en répétant « J'aurais adoré être dans un bouquin truffé de jeux de mots pourris avec un humour douteux qui parle de jambes perdues, j'aurais tellement pris mon pied !» Elle était dépitée de ne pas apparaître dans le livre. Après je l'avais prévenu que passer le casting pour les jambes, c'était un peu ambitieux. Ah mais vraiment, Jonathan, vous m'avez déçu avec ce roman photo, dans lequel vous parlez d'une fameuse défaite de l'équipe de France à l'Euro, mais celle de 2016. Alors que tout le monde sait que la plus belle des défaites des Bleus à l'Euro, c'est contre la Suisse le 28 juin 2021.
C'est drôle.
D'ailleurs, non mais d'ailleurs, il aurait peut-être fallu prêter une jambe droite à Mbappé pour me tirer le péno, quoi. Alors j'en parle beaucoup cette saison de ce match, mais c'est parce qu'en juin on fêtera les 5 ans de ce qu'est devenu une fête nationale chez nous. On fait tellement peu la guerre qu'on prend ce qu'on peut comme commémoration.
C'est clair. Je t'aimais bien, Bruno.
Bah je suis désolé, Léla. Non mais puis bon, Jonathan,
moi j'ai jamais aimé. Mais,
c'est pas comme ça que ça va s'arranger. Non mais un roman photo, quelle idée, quoi. En gros, c'est un livre pour les adultes qui aiment pas lire et veulent juste voir les images. Un groupe qui en général est plutôt bien servi déjà avec les films. Mais vous êtes un groupe qui aime les images mais pas quand elles bougent. C'est un choix marketing ambitieux. Et encore, adulte, je suis gentil, hein, car à la base c'est quand même un genre de vieux. Hein. Alors monsieur fait des photos avec du texte dessus et vous appelez ça un roman graphique. Notre génération, on appelle ça des story Insta. Alors, si je peux vous donner un conseil de la part de la Gen Z, il n'y a pas du tout assez de codes promo et de placement de produits. Ça va rentrer. Et puis vous avez pensé un peu à Philippe Croizon. Il va voir un livre qui s'appelle « Qui a volé mes jambes ?» Il va s'identifier et vouloir le lire, mais il pourra pas. Il n'y a pas de format audio. Il aura besoin d'un petit coup de pouce, si vous voyez ce que je veux dire. Aldolaf, celle-là, elle est pour toi. Oui, merci pour tes rires. D'ailleurs, parlons de vos invités. D'ailleurs, Jonathan, parlons un peu de vos invités. Là aussi, vous avez tout fait fou, hein, on l'a dit, mais il y a notamment Kian Kojandi, Valérie Lemercier, Fred Testo, Vincent Dedienne. Tout ça pour un roman photo. Donc si je résume, vous avez fait venir tout ce beau monde dans un décor préalablement éclairé, vous les avez habillés, maquillés et mis en scène, et vous en avez même pas fait un film. Le plus dur était fait, ça sentait le César, et là vous aurez même pas le Goncourt. C'est l'équivalent d'avoir Messi, Ronaldo, Zidane et Beckham sur un terrain, et vous êtes là, bon on fait quoi, quelqu'un un Mulky ou quoi? Et ces gens, bon on en parle, vous dites les avoir achetés sur Le Bon Coin. Bon déjà ça en dit long sur le budget du bouquin. Et surtout, qu'est-ce que vous avez dit au moment de les récupérer? Moi j'imagine une dame à la retraite qui faisait du ménage dans ses affaires et tombe sur une paire de jambes en plastique qu'elle utilisait dans la vitrine de son magasin. Elle décide de les mettre en vente sur internet en se disant qu'aucun fou furieux ne serait capable d'acheter ça. Et là elle voit qui débarquer ? Jonathan Lambert, voilà, qui lui dit qu'il a besoin de cette paire de jambes en plastique pour un projet de photo avec des amis dans une cave. Eh ben Jonathan, heureusement que votre bouquin sort aujourd'hui, parce que depuis ce jour-là, vous étiez sous la surveillance de la police judiciaire. Bon, j'arrête de médire Jonathan, parce que c'est pas la première fois que vous êtes mal reçu par un Suisse. J'ai retrouvé cette archive qui date de 2010. Alors je sais pas si on veut parler d'archives en 2010, mais je trouve que ça rajoute un petit côté passif-agressif, j'adore. Et donc vous étiez invité sur le journal télévisé suisse, et voici ce que la journaliste disait de votre humour.
Il y a un petit côté pathétique parfois, hein. Vous aimez cultiver ça, ce côté un peu
wow.
Et ouais, comme quoi Oldolaf,
on s'accueille en Suisse.
T'as pas perdu grand chose.
La Cogne Helvétique,
c'est vrai ?
Ouais,
c'est
vrai. Mais je pense qu'elle voulait parler des personnages que je...
Non, d'ailleurs... pas du tout ça. D'ailleurs... Alors, je l'ai au téléphone et...
Non, non, c'est pas la tort, c'était vraiment pas ça, d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est tout à fait l'image de ce personnage de Vincent Molten, de ce comptable misanthrope qui est tout à fait pathétique et loser.
Et Bruno est sur scène, Bruno Pecky.
Pathétique également.
Pathétique et loser.
Tu seras au Point Virgule à Paris le 21 mars.
Et j'aimerais évoquer les autres partenaires, parce qu'il y a également Lilou Fogli, Thaïs Vauquier et Nadia Rose, pour citer... Voilà.
Alors, Valérie Lemercier, Thaïs Vauquier, en effet, Marc Michaud, évidemment.
Marc Michaud,
Kian Kojandi, Vladimir, parce qu'il y a la famille aussi, hein. Il y a vos enfants et votre épouse. Mm-hmm. Assumez quand même. Vous les avez pas mis au générique? Ah si, vous les avez mis au générique.
Oh, c'est pour des raisons fiscales.
Lilou, Lilou Fogli, donc Nadia Rose, Christian Louboutin.
Oui.
Alors, il y a ça, du placement de produit quand même.
Non, parce que l'histoire est assez folle. Je me retrouve à un dîner et je parle de ce projet et Christian Louboutin me dit mais Molinier, moi j'adore, je collectionne.
Évidemment.
Et, évidemment, il y a une sorte de prolongation avec
le fétichisme, le talon, la chaussure. Voilà. Vous qui aimez tant les pieds.
Et donc voilà, et donc on partage sur cet artiste, et je vois qu'il connaît énormément son travail, et donc je lui lance comme ça, je lui dis mais ça t'amuserait de passer une tête, elle me dit oh et pas de problème, tu m'appelles. Je pensais que ça s'arrêtait là, et en fait je l'ai contacté et il a mis à disposition son studio et on a fait une sorte de fausse pub pour Louboutin avec le personnage de Vincent Molten.
Parfaite. Et vous avez même demandé à votre éditrice de participer.
Alors ça c'est le côté scotien de Nathalie Fishman, c'est qu'elle exige, elle
m'a dit,
je veux toujours faire une apparition dans le roman photo de mes artistes. Donc on la voit dans chaque
comptable,
roman photo.
En comptable, c'est ça. Là, elle est en comptable en l'occurrence. Est-ce que le cœur du sujet, c'est le fétichisme? Parce que sous prétexte du clin d'œil à Pierre Molinier, ils sont tous un peu frappés.
Non, ah oui.
J'irais pas jusqu'à dire pathétiques, quand même, mais ces personnages ont tous un problème.
Oui, mais moi j'aime bien les gens pathétiques, je trouve que en tous les cas, ça crée de l'empathie. Je veux dire, on n'a pas envie, c'est pas des gens quand on a envie de... Non, je pense pas que ce soit le fétichisme.
On s'en moque un peu.
Oui, mais gentiment, mais le personnage finalement, il est... Et puis il y a une résolution, c'est-à-dire que c'est un misanthrope qui va apprendre et qui va se transformer grâce à l'amour. C'est quand même un message.
Donc alors le point de départ, c'est pas le fétichisme, c'est pas uniquement je vais me servir des jambes de
Pierre
Molinier.
Non, le point de départ, honnêtement, je ne sais même pas comment, parce que l'histoire s'est imposée assez vite dans ma tête, c'est que voilà, je voulais faire quelque chose autour de Molinier, je me suis dit, ça serait quoi un type aujourd'hui comme Molinier qui vit avec une paire de jambes et qui considère que c'est son doudou, c'est sa vie. C'est, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec l'intelligence artificielle,
bien sûr.
Voilà, je me dis, vous vivez avec des paires de baskets étranges.
De Christian Louboutin.
Ah bah voilà,
placement produit.
Il y avait une fille qui s'est mariée avec un lustre.
C'est vrai,
c'est marié avec Alice, tout à fait, ouais.
Moi,
elle explique son amour. Ouais, mais voilà.
Il
y a des gens qui sont fétichistes à un point.
Aux États-Unis.
Ouais. Je crois que c'est une Anglaise.
Une Anglaise.
Une Anglaise.
Mais on a le droit.
Alors,
si le lustre est consentant, oui.
Oui, c'est ça.
D'où l'expression, ça fait des lustres. Non, pour revenir aux
expressions. Non.
À vérifier quand même, parce que je vois pas comment légalement on peut se marier avec.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous convaincre ce casting, c'est-à-dire, est-ce qu'en un coup de fil, vous réussissez à convaincre des Kian Kojandi, des Valérie Lemercier, en disant, voilà, je fais un roman photo, est-ce que t'as... Il faut combien de temps? Il faut une journée?
Non, parfois c'est un passage d'une heure et Fred Testo est largement plus présent, donc lui c'était une journée, mais je leur ai un peu raconté l'histoire et puis après, me connaissant, ils savaient que de toute façon, ce serait un truc à trois pattes, quoi. Mais voilà, c'est ce que j'aime, moi.
Vous êtes du genre à ne rien lâcher, c'est à rappeler, même si le message reste sans.
Non, parce que je pars du principe qu'il faut que les gens. J'ai appelé Julien, il devait faire une apparition aussi dans le roman photo. Ah, ouais.
J'aurais trop voulu le faire et
il prenait trop cher.
Et pourquoi tu l'as pas fait?
J'étais dans l'impossibilité de le faire ce jour-là.
Il a dit que ça prenait 10 minutes.
Mais je n'avais
c'est
pas.
Gênant, hein, c'est gênant, mais je t'avais dit que je te gênerais.
Il a dit que ça pourrait être un autre.
Pardon.
Tu m'interromps jamais quand je commence. Il a dit que ça pourrait être un autre jour.
Je peux répondre?
Là, oui.
Non, il pouvait pas des autres jours. C'était sur deux jours.
Non, je crois que Julien était décédé pendant deux semaines et il a ressuscité. Et tant mieux pour nous tous.
C'est pas parce qu'il manque des chroniqueurs que je dois me faire attaquer. Je veux répondre et je n'accepterai pas cette suite.
Alors c'est vrai que tu fais partie de ceux qui ont cette patte, puisqu'on est avec des jambes, de ne jamais remplacer. au pied levé, un chroniqueur quand on a besoin de toi dans la bande originale.
C'est ma fête.
C'est son projet.
Non, écoutez, je décide.
Tu veux qu'on dise la vérité?
Je décide de quitter cette émission.
Tu vois, Julien ne me dit jamais non.
C'est quelque chose.
Les grosses conséquences.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le bras long malgré son fantasme sur les jambes. On peut parler quand même de votre phobie des pieds. Je suis obligé d'en parler, Jonathan Lambert.
Oui, mais
vous avez un problème avec les pieds.
Est-ce que ça s'est calmé?
Et ça s'est soigné. Ça s'est calmé.
C'est-à-dire?
Bah non, c'est que maintenant, c'est vrai qu'avant, j'avais une sorte de, comment dire, de, pas de phobie, mais en tous les cas, d'aversion. Voilà, ouais. C'est plus joli.
Même avec les vôtres?
Je sais pas si c'est plus joli.
Oui, avec... surtout les questions.
Ah non, mes pieds, je les tolère. Bah sinon, je me serais coupé.
Ah pardon.
Oui. Non, justement, mais c'était les pieds des autres que je ne supportais pas.
Les chaussures ouvertes.
Et je veux dire que les films de Tarantino m'ont pas mal aidé parce que dans les films de Tarantino, il y a beaucoup de gros plans sur les pieds.
Ah.
Je pense qu'il y a un petit penchant chez le bonhomme. Ouais. Et j'ai trouvé effectivement il a sublimé le pied souvent de ses comédiennes.
Votre amour pour l'art contemporain, pour un peu l'absurde aussi, se retrouve justement dans l'œuvre de Pierre Monnier.
Ah oui.
C'est vrai. Vraiment
oui, parce que je pense qu'il y avait une dimension assez comique dans ce qu'il faisait et dans son comportement. Il y avait quelque chose. Il était très provocateur. Encore une fois, il a beaucoup joué de ça. Donc c'est un personnage. Et puis ce que j'aimais surtout, c'est que c'est un personnage donc effectivement assez à part, assez fou, qui vivait à Bordeaux dans un petit appartement, qui avait créé une sorte de factory à Rolienne avant l'heure, parce que dans ce petit appartement se retrouvaient des intellectuels, des profs d'université, une prostituée. Donc c'était vraiment une sorte de joyeux mélange. Il a jamais voulu monter à Paris parce qu'il voulait rester ce petit pape dans son petit appartement. Et je trouve que c'est un personnage très singulier, tout le monde le dit, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la photographie, et qui a pourtant eu une aura et une dimension même
jusque dans les années 70, hein, c'est ça ?
Il est mort, il s'est donné la mort en 76.
Quelle a été la personne la plus difficile à convaincre ? Est-ce que c'est Vincent de Dienne, Valérie Lemercier, Ken Kojandi ?
Non, Vincent de Dienne, d'ailleurs, pour répondre, c'est je l'ai appelé, je vais vite pitcher le truc.
Ça lui va bien, le concierge.
Il le dit dans un making-of, il me dit, moi, de toute façon, quand Jonathan Lambert m'appelle pour venir faire un truc, il m'a dit, il faudra que tu portes une blouse rose. Donc ça m'a fait rire, j'ai dit oui.
Il y a un making-of du roman photo ?
On a fait quelques images, voilà, pour qu'on mettra sur les réseaux pour voir un petit peu comment ça s'est fait. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va mettre le avant-après entre le storyboard que j'ai dessiné et les photos qui sont réalisées par la suite. Et c'est assez saisissant parce que je vous en parlais, c'est là où on voit que c'est extrêmement préparé et sur les rails, parce qu'il faut être très, très, ouais, très efficace.
Alors justement, l'efficacité va aussi dans l'esthétisme, la lumière, le maquillage, l'accessoirisation, les éléments décor qui viennent alimenter. C'est quand même un énorme travail parce qu'on a l'impression comme ça, on dit oui...
Oui, il y a un côté blague comme ça, mais en fait c'est vite fait,
c'est juste une photo, ouais. Ça prend 10 minutes, mais c'est un énorme travail derrière.
Bah oui, parce que si on veut que la tenue de ce personnage déjà soit crédible et qu'elle soit, il a un petit côté cartoon, donc il faut très vite imprimer, donc jusqu'au choix de la cravate, la couleur des chaussettes, que ce soit l'intérieur de
la serpillière qui a servi à habiller Fred Testo quand même, qui est une belle serpillière.
Mais on notera que sur son pull il y a une vraie tache de gras et je voulais pas que ce soit une fausse tache, donc on a été chez un loueur de costumes et j'ai dit non, je veux un pull dégueulasse mais avec une vraie tache, je veux pas qu'on fasse la tache.
Mais pourquoi vous n'avez pas pris un pull propre sur lequel vous avez mis une tache?
Bah parce que ça, c'était fake. Je voulais que le pull ait son existence.
D'origine.
Voilà, exactement.
D'accord. Et à propos de taches, on parle de vos cheveux gras ?
Alors, je vais vous dire, c'est même pas du gras, c'est de l'eau. C'est de l'eau que je rajoutais à chaque fois au dernier moment pour que le cheveu soit bien collant sur le front.
Parce que c'est votre image du comptable.
C'est mon j'ai mon comptable que j'embrasse. Je ne ressemble pas du tout à Vincent Molten.
Alors.
Non, mais je trouvais que c'était marrant d'avoir un personnage comme ça, ouais, comme on disait, pathétique, loser, misanthrope, laid. Et moi, ce que je dis souvent, c'est ce que disait cette journaliste suisse certainement, c'est on me dit, vous faites à chaque fois des personnages plutôt repoussants, abjects. Mais c'est une façon de me rassurer, de me dire, en fait, quand je suis plus comme ça, je suis presque baisable, quoi. ça me rassure. D'une certaine manière.
Génial, la confiance.
Le presque, c'est ça. Oui. Celui qui a reçu donc le boulier gravé de ses initiales, le boulier d'or, comme étant l'un des meilleurs comptables, se retrouve donc héros de ce roman photo, avec la possibilité quand même au dernier moment de changer, ce qui n'est moins possible peut-être avec un doublage en studio, mais de changer des dialogues,
de
rajouter des bulles. Une fois que les photos ont été faites. Est-ce que ça, c'est beaucoup arrivé ?
Pas beaucoup, mais oui, oui. Ça, il y a eu, c'est vrai, des modifications. Il y a eu parfois aussi des surprises où on se rend compte qu'il y a des photos qui sont très belles quand on les voit, parce qu'à chaque fois, quand même, avant de passer à la photo suivante, on se dit OK, c'est bon, on a le cadre et tout. Mmh. Et il se trouve qu'avec les bulles, les phylactères, les indications, la photo se retrouve un peu mangée. Et parfois, c'est ça, c'est un peu triste, parce que c'est une photo qui vit par elle-même et qui est moins belle dès lors qu'on imprime les
bulles. Ça veut dire
dessus.
Qu'au moment de prendre la photo, il faut savoir où les bulles vont apparaître pour laisser la place aussi, au texte.
Aussi, au maximum. Se dire, tiens, il faut laisser plus d'air en haut, parce qu'à ce moment-là, la bulle de ce personnage sera en haut à gauche, alors que la bulle de tel personnage... parce qu'on lit de gauche à droite, bien évidemment, et donc de haut en bas, donc il y a l'emplacement des bulles. Il y a ce qu'on appelle les cartouches. C'est pas les bulles, c'est-à-dire que c'est et pendant ce temps-là, par exemple, et ça c'est toujours effectivement plutôt en haut à gauche, mais parfois on le met en bas à droite. Donc il y a un jeu de Tetris un petit peu à faire avec toutes ces cases qui est pas évident.
Et puis il y a un bébé.
C'est Vincent Molten qui se souvient de lui enfant. Voilà.
Qui n'est pas au générique.
Si, absolument.
Il est au générique.
C'est
lequel, pardon ?
Sacha Coé.
D'accord.
Il est au générique.
Et c'est même marqué pour son premier projet.
Oui, exactement. Oui.
Ouais, pardon. Oh, ça va.
Nagui, ce qui vient de faire, là. J'ai pas supporté. Mais voilà, il essaie de mettre sur moi maintenant.
Il y a un petit mulot aussi.
La balance en deux secondes.
Ah ouais,
je t'aime.
Et puis il y a le mulot. Qui a un rôle important.
Et il y a un rongeur à lunettes. J'y tenais.
Non, et puis et Lilou Fournier aussi, qui est impressionnante, y compris dans sa métamorphose.
Machiavélique.
C'est-à-dire qu'il y a un maquillage assez balèze. Et d'ailleurs, elle finit le roman photo avec une sorte de teaser qui est un peu une porte ouverte.
À la suite.
Un coming next.
Sait-on jamais.
Ça sort aujourd'hui au Seuil, à Qui a volé mes jambes, au studio Mogul, donc signé R. Jonathan Lambert, qui est notre invité. Voici malheureusement. Julien Santini.
Oh, bravo. Merci beaucoup. C'est la chronique de Julien Santini, a.k.a. le chroniqueur qui ne remplace jamais les collègues, a.k.a. l'homme qui a planté Jonathan Lambert comme une merde.
Voilà.
Bref, je suis énervé ce matin, vous l'avez compris, énervado le Juliano. La semaine dernière, j'ai joué à Marseille, la ville des fadas et des farfadets. En fait, je ne connais pas beaucoup Marseille. Et à Marseille, j'avais des personnes de ma famille que j'avais invitées. Et je me rends compte que quand tu es invité, c'est la pire race. Alors, le terme est un peu maladroit.
Ouais.
C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je me rattrape. C'est juste qu'il y a des gens que j'invite qui sont capables de m'envoyer un message à 16h30 pour me dire, par exemple, mais Julien, c'est à quelle heure déjà ce soir ? Je peux avoir ça. Ou Julien, c'est où le théâtre déjà ? J'ai droit à une flopée de questions comme est-ce que ça commence à l'heure ? Où dois-je retirer les invitations ? Ne me chauffez pas, j'établis des listes. En fait, je me dis, mais c'est comme en psychanalyse, il faut payer pour s'investir, et quand les choses sont du tout cuites, quand on vous les amène sur un plateau d'argent, il n'y a plus aucun effort, alors ça pose de véritables questions. Doit-on continuer à inviter des gens lorsque vous les aimez, mais que vous avez déjà envie, vers 16h35, un samedi après-midi, de leur ôter la vie ? Alors, Nagui, Leïla, vous aussi, vous avez des invités dans vos émissions, et je me faisais la réflexion. Alors attention, aujourd'hui avec Jonathan Lambert, c'est génial, mais on ne va pas se mentir, on a parfois des émissions moins performantes. Et je me demande donc s'il ne faudrait pas faire payer les invités pour qu'ils aient le droit de venir faire leur promo dans l'émission, je peux vous dire qu'elle aurait une autre gueule l'heure et demie. Nagui, ne m'interromps jamais dans ma chronique. Je me rends compte que je me suis un peu égaré dans vos propos et il y a des excuses que j'adresse aussitôt. Je vais me recentrer. Oh, les invités, sale race ! Non, mais c'est juste un moyen mnémotechnique. Voilà. On ne me pardonne rien, c'est fou. Jusqu'à présent, je parlais des gens que moi j'ai décidé d'inviter, mais attention, il y a des gens à qui je n'ai rien demandé qui, eux, me les demandent, les invites. Et c'est là que je me rends compte qu'on fait un métier qui, dans l'inconscient collectif, quelque part, n'a aucune valeur. Puisqu'il peut être bradé à tel point qu'au final, ils finissent gratuits. Le pire, c'est quand je reçois des messages de gens que je connais qui me disent « Je vais venir te voir au théâtre. » Et je sais très bien qu'ils attendent que je leur dise « Mais attends, je te mets une invite. » Parce que je rappelle que si on veut venir voir vraiment quelqu'un, on prend les places et on ferme sa gueule. Alors, moi, de toute façon, désormais, j'ai une technique. C'est que je dis « Franchement, j'aurais adoré vous mettre ces invites, mais malheureusement, ma prod est horrible. Oh là là, ma production avec ça en ce moment, mais il faudrait vendre père et mère. » Donc malheureusement, c'est pas possible. Je trouve ça extraordinaire et je me rends compte aussi que peut-être c'est un peu con ce que je viens de faire parce que maintenant les gens connaissent cette technique. Alors je m'adresse à toutes les personnes à qui j'ai déjà dit, sachez, et je vous le jure, hein, I swear, I can assure you, je ne vous ai pas menti. Du coup, Leïla Nagui, pour le coup, par contre, vous, c'est vraiment avec ma prod qu'il faudra voir.
si vous souhaitez venir. J'ai essayé, s'il vous plaît, on n'est pas loin de la fin. J'ai essayé d'analyser, mais comme aujourd'hui il manque 8 personnes, je vais quand même prendre mon temps. J'ai essayé. On sera payé plus. Qui c'est qui va j'adore l'impro, mais je n'ai pas les moyens de mes ambitions. Jonathan, prends-tu du plaisir depuis le début de cette chronique?
En tous les cas, je rappelle que le livre est payant.
Bon, je ne sais pas si tu prends du plaisir, c'est ça la question à la base, mais si tu en prends, montre-le, s'il te plaît. J'ai essayé d'analyser sociologiquement le sens des invitations, et c'est passionnant, par contre, ça risque d'être chiant à mourir. Ce que je vais vous dire, je ne suis pas qu'une machine à blague, auquel cas la machine, elle décide de se mettre sur pause une minute et parler avec son cœur. Avec son cœur de machine, ce qui n'existe pas.
En réalité, toutes les machines ont un cœur.
Exactement. En réalité, lorsque l'on bénéficie de l'invitation, notre orgueil est décuplé. On se dit, je suis l'élu. Je suis celui ou celle qui n'a pas besoin de payer. C'est important de savoir que les gens ne rigolent pas du tout à mes blagues. Contrairement à la masse qui est obligée de le faire. Donc ce n'est pas une simple invitation, c'est un indicateur. L'invitation est un indicateur social de notre valeur qui est plus grande que la moyenne. C'est en tout cas mon explication, et je vois bien autour de la table qu'il n'y a que mépris et médisance sur cette explication. Pour finir, je vais vous laisser sur un dernier exemple qui, je l'espère, servira de démonstration. La dernière fois, je parle avec un producteur de comédie musicale que j'aime beaucoup. C'est une comédie musicale qui a cartonné et qui revient en ce moment. Je ne peux pas faire de la pub, je le sais, et je respecte cette règle, mais c'est une comédie musicale où il s'agit d'un roi et d'un soleil. Et le producteur me dit, il faut absolument que tu viennes le voir. C'était une autoroute qui s'offrait à moi, vous l'avez compris. Cette autoroute, j'ai envie de la prendre fond de balle. Qu'est-ce que je fais? Non. Parce que si moi, je ne donne pas l'exemple, qui le fait? Surtout après l'argumentaire que j'ai sorti. Je suis allé sur le site de billetterie. Je regarde le prix des places et j'ai accepté les invites. Il n'y a pas longtemps, mon voisin du 6e étage m'a dit critiquer, c'est se reconnaître. Il me l'a dit en mandarin, mais j'ai traduit. Donc au final, vive les cultures, vive la culture. Et quelle que soit la façon d'obtenir une place, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve dans une salle de spectacle.
Et Julien, tu es sur scène.
Personne n'a relevé le voisin mandarin.
Ouais. Tu es sur scène en Corse le 26 mars à Bigoulia. Oui.
Là, tu vas faire tomber les invites.
Les 27 et 28 mars, tu seras à Paris à la Gaîté Montparnasse. Et le 3 avril, on te retrouve sur scène à Caen.
Ce qui est infernal. Non, mais il a là où il a raison, Julien, et je pense que vous avez tous vécu ça en faisant des spectacles, en ayant des invitations. C'est aussi ceux qui demandent des invites, ont des invites et qui t'envoient un texto à 10 minutes du spectacle en disant ouais, désolé, il y a le petit qui est pas bien, machin, je viens pas. Et là, tu te retrouves avec, et tu vois les deux sièges qui sont restés vides dans la salle. Non, ça vous est déjà arrivé, ça?
Et pire, moi, on m'a demandé des invites pour le spectacle de quelqu'un d'autre à qui j'ai osé demander, ça ne te mettrait pas, j'ai des amis qui sont dans cette ville-là, ils voudraient, et ils ne viennent pas. Et là, j'avoue que ça m'a piqué un peu, et je me suis excusé platement, mais c'est, ça te met mal. Mais évidemment, et puis parfois, des gens, comme me disait Julien, que tu ne connais ni d'Emily Nadan, qui te demandent des places pour ton spectacle, quoi. Je ne comprends pas. Je peux continuer à parler ou je...
J'attendais une chute, moi, je...
Quand tout à coup...
Il parle jamais.
Voilà.
Mais qui est-il?
Je ne sais pas
qui est ce monsieur.
Sécurité.
Lorsque tu disais.
Envoie mes paroles.
R. Jonathan Lambert, est-ce que.
Et c'est pour ça que je fais payer le livre, effectivement.
Exactement.
C'est pas
important. Nous, on l'a eu gratuitement.
Bravo, visiblement.
20 euros.
20,90.
Le seul truc qui nous manque, peut-être, c'est la musique, qui est aussi l'une de vos passions, l'un de vos plaisirs.
Dans un roman photo?
Bah oui.
Ouais,
il aurait pu avoir un QR code avec une musique à lancer selon les pages.
Pour le dos.
Est-ce que c'est frustrant ou pas? Non, sincèrement.
Non, franchement, il y avait déjà beaucoup de choses. Et surtout, moi, je reviens sur le storyboard. J'aime bien dessiner et ça a été une expérience assez géniale. En fait, de projeter les images qu'on a en tête au bout du crayon et de les voir se réaliser par la suite.
Et tout est possible parce que
tout est possible.
Ce qu'au cinéma on ne peut pas faire, là on peut l'imaginer dans le roman photo.
Bah, il y a notamment, cette image où Fred Testo s'envole dans son fauteuil roulant avec des plumes de pan.
Vous spoilez tout.
Non, mais parce que je suis même si c'est thriller, on va dire que le suspense on peut le contenir.
Mais ça s'appelle une chute.
mais j'avais ça en tête et ça fait plaisir quand on a écrit et même dessiner quelque chose,
si on peut le faire.
De le voir se réaliser.
Qui a volé mes jambes? R. Jonathan Lambert le publie donc son roman photo au Seuil, dans la collection Studio Mogul. On va recevoir Céline Cause dans quelques instants, qui est psychanalyse et sexologue. Elle va avoir du travail, puisque elle va nous demander si nous sommes préparez vos réponses, sommes-nous fétichistes, et si oui, de quoi? On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans la vie de R. Jonathan Lambert. On commence en 94 avec les Breeders. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
C'est un album que j'ai énormément écouté. C'était un petit peu la période un peu du grunge. Et puis c'était ces nanas, je sais pas, elles étaient 4, 5. Je trouvais qu'elles avaient une force. L'album était... chaque chanson était un peu différente. Il y a évidemment, c'est Cannonball, leur tube.
Ouais,
leur
énorme tube.
Mais j'aime aussi beaucoup cette chanson. Elles avaient un côté destroy. Je trouvais ça très joyeux, en fait.
Un peu comme Lilou Fourier à la fin du roman photo.
Ça lui fera plaisir. Ouais.
Et on vous retrouve dans C'est tout coffre à cette époque-là, sur France 2, en fait, au début tout dans cette coffre. Émission. C'est tout coffre, coffre. Ou pas coffre. J'étais en détention et tout. C'est tout coffre. Jean-Pierre Coff. En fait, vous passez un casting, je crois, comme ça, un peu par hasard.
Absolument, par curiosité, pas par hasard, par curiosité. C'était pendant les vacances de Noël, et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la chance du débutant. À la fin de la journée, on me dit bon, je comprends qu'il se passe un truc parce qu'on refait passer des essais. Et à la fin de la journée, on me dit voilà, c'est vous, la chaîne vous a choisi.
Mais quel genre d'essai on vous fait passer?
Il fallait voir, c'est parce que c'était une sorte de co-animation. Il fallait co-animer avec Jean-Pierre.
Et vous êtes le Candide.
Enfin, on m'a jamais appelé comme ça. C'est les Guignols qui ont appelé ça.
Oui, c'est ça.
C'était effectivement le principe de l'émission, c'était d'opposer la génération Z de l'époque avec un monsieur qui était d'une autre génération, et de montrer comment on s'alimentait, comment on pouvait consommer différemment. Et moi, je leur dis à la fin, mais vous savez, moi, je peux pas. Je suis étudiant. On me dit, mais pourquoi vous êtes venu? Je dis, pour passer un casting. Je veux savoir comment ça se passait, pas pour avoir le rôle, mais pour passer un casting. Et on me dit, c'est embêtant parce que ça y est, on a fait partir les autres. Et puis ça va être payé tant par émission. Pardon, combien? J'arrête les études et voilà.
Ça a duré 6 mois l'émission.
Ça a duré que 6 mois. Ouais, on en a beaucoup parlé.
Et on en garde un grand souvenir. La différence de.
C'était
de...
tous les après-midi, c'est ça?
C'était tous les. Non, je crois que c'était à l'heure du déjeuner sur France 2. Au moment où Antenne 2 devenait France 2.
Et comment vous marquez la différence d'alimentation entre vous et Jean-Pierre Coff?
En vérité, il avait un discours qui est aujourd'hui hyper à la mode.
Oui.
C'est le premier à avoir parlé de manger responsable, locavore, des fraises, on attend le mois de juin, pareil pour les tomates.
Suivre les saisons. Et ne pas manger industriel,
être éco-responsable.
Du jambon sous vide sur les plateaux, à la tête de tout le monde.
Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'à l'époque, on disait c'est un peu un discours un peu à l'ancienne, alors qu'aujourd'hui, c'est un discours hyper moderne.
Absolument.
Et finalement, il avait pas mal d'avance.
Et vous buviez du vin tous les midis?
Il en vivait tout.
Pas vous?
Non, je balance.
En 2000, vous écoutiez... À quelle occasion vous écoutez de la musique? Est-ce que c'est un réflexe dès le matin au réveil? Est-ce que c'est en faisant du sport? Est-ce que c'est en écrivant des scénars, des sketchs?
Alors, pas en écrivant, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand il y a de la musique, mais oui, le sport, ou même... Non, moi j'aime bien l'idée d'écouter de la musique et de rien faire d'autre. Je trouve que c'est assez jouissif de s'installer.
Et ce titre de R, donc, il arrive à quel moment?
Il arrive, je danse un slow avec Julien Santini dans un nightclub.
À Bigoula?
Non, je pense que c'est avec le film Virgin Suicide. Je suis d'abord, ce film touche énormément, et cette bande son évidemment qui va avec, et qui est presque c'est un peu un couple, la musique, la BO et ce film. Donc c'est une musique qui m'a beaucoup marqué.
Et cette époque-là, vous créez les personnages récurrents, Damien Béizet, Rémy le Primeur, dans la grosse émission.
Ouais, c'est ça.
Il y a Gribouille aussi. Quel est le personnage que vous avez créé? Qu'est-ce qu'il y a de là?
Non, ça fait
rien. Je dessinais déjà, avant le storyboard.
Blue Michou aussi.
Blue Michou, ouais.
Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous affectionnez particulièrement?
Quelle belle soirée!
Blue Michou, tiens, c'était assez marrant. marrant, qui, personnage qui est né parce que je, à l'époque, je bossais d'abord sur une émission où on croisait souvent Michou parce que je tendais le micro, c'était une sorte de, c'était exclusif, qui était une émission un peu sur toute l'actualité
du quotidienne sur les people.
Voilà, sur les people ou même la culture. C'était pas que people, on allait sur des tournages. Et moi, j'étais souvent dans les soirées où je tendais le micro aux invités et il y avait Michou souvent qui venait. Donc c'était fascinant de voir ce type tout en bleu avec ses lunettes qui ressemblait à des pare-brises, quoi. C'était des trucs énormes, son brushing, un truc qu'il faisait déjà, mais c'était
adorable.
Adorable, ouais. Mais c'est vrai, il était tout le temps, enfin sous l'emprise du champagne pour rester. Et à chaque fois que je tendais le micro pour avoir un mot sur un film qu'il allait voir une soirée, en fait je crois qu'il savait pas où il était, et il disait juste quelle belle soirée. C'était une sorte de signature. Je trouvais ça marrant, ce type qui était toujours joyeux, voilà, plein de champagne et tout heureux de balancer cette espèce de message joyeux de quelle belle soirée. Donc quand j'ai fait Blue Michou, je me suis dit on va faire un type qui dit toujours quelle belle soirée.
Et Baiser est né aussi dans cette période.
Baiser est né dans cette période, Gribouille est né dans cette période.
Rémy le Primeur.
Rémy le Primeur, toujours blagueur meuf, tout primeur. Il y avait toujours une signature.
Ouais. En 2001-2002.
Ah oui, bah oui, quand même.
Les trois, on est dans une même ambiance. Hein. On est.
C'est vrai, je me rends compte que.
Un peu dark. Hein.
Ouais, finalement. Okay. Ouais,
ça va en ce moment.
C'est vrai que.
Radiohead.
Le suicide des jeunes filles.
Hein, en 2001-2002, et là, c'est la radio, c'est énergique.
C'est ça, et la bande, finalement. Bruno Guillon, Philippe Lelièvre, Arnaud Lemort, sur Énergie, de 6h à 9h. Ça coûte des points de vie d'être à l'antenne à ces horaires-là ?
Non, ce qui va être compliqué, c'est que je me levais, donc, vous le savez, très tôt pour le morning, mais le soir, j'avais encore j'avais Comédie qui était en direct à 19h. Ouais. Donc je dois dire que ce grand écart était un petit peu. J'avais souvent les yeux rouges le soir.
Il y avait l'hyper chaud aussi à cette époque-là avec Frédéric Becbédé.
L'hyper chaud, je crois que c'est en 2003 l'hyper chaud ou 2002. Enfin, ça dure 3 mois, hein, je crois. Donc ça dure pas longtemps.
Vous avez rapidement su que ça allait pas durer ?
Très vite. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que. Non,
mais avant le premier jour de tournage.
C'est possible. Fou, hein. Mais, ce qui est assez amusant, c'est que c'était une sorte. Moi, j'appelle ça. C'était un naufrage joyeux. C'était le Titanic, mais vraiment.
Chouette.
C'était. On jouait. Et on avait fait toute une série d'émissions. C'était assez marrant sur l'idée de Becbédé, je crois, à l'époque. Il avait dit puisqu'on ne fera pas l'émission de Noël, on ne fera pas l'émission de Pâques. On avait fait la dernière semaine l'émission spéciale Noël, spéciale Pâques, spéciale Festival de Cannes.
C'est drôle.
Et on avait fait toute l'émission qu'on aurait dû faire dans la saison et qu'on n'a jamais fait.
Et la radio reste un bon souvenir avec Bruno Guillon, Philippe Lelièvre.
Très bon souvenir. Moi, la radio, je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a, puis pareil, il y a cette liberté et cette immédiateté que je trouve assez génial, surtout quand on est en direct.
Et l'imaginaire. Se retrouver comme dans le roman photo.
D'ailleurs, quand je faisais un feuilleton radiophonique avec vous, Nagui.
Je
me souviens quand j'écrivais, c'était assez génial parce que je disais, là j'ai envie qu'on soit dans la jungle et qu'il y ait un hélicoptère qui débarque. Et je trouve que cet imaginaire, et quand c'est bien produit, c'est assez génial ce que ça évoque dans l'esprit des gens.
Belle émission de radio, on a bien été viré. Hein.
De toute façon, avec moi, c'est le principe. Hein.
Avec moi aussi. À nous deux, quelle carrière. En 2007, vous écoutiez un peu de joie.
Corner Shop.
Brimful of Asha. Oui. Et là, il se passait quoi, Leïla, dans la vie de Jonathan Lambert ?
Votre one-man show, L'homme qui ne dort jamais, c'était à la Comédie de Paris, spectacle que vous avez co-écrit et mis en scène avec Arnaud Lemort.
Absolument. Et d'ailleurs, c'était de la musique. Je sais pourquoi j'ai choisi, parce que pendant que les gens rentraient, on choisit. Moi, j'aime bien choisir une musique. Et il y avait notamment cette.
Comme dans les concerts, la musique du pré-show.
Exactement.
Alors, j'ai présenté le spectacle comme un one-man show. C'est toujours difficile d'étiqueter un spectacle qui a une forme qui n'est pas correspondante complètement.
C'était une sorte plutôt de récit d'un personnage qui moi j'avais été fasciné par ce film de Scorsese qui s'appelait After Hours, où ce type pendant toute une nuit dans New York passe voyage dans ce New York des années 90 je crois, ou même 80, et c'était l'histoire d'une nuit sans fin d'un personnage qui n'arrive pas à dormir.
En 2000, c'est la dernière d'ailleurs, musique
sinon,
que vous avez choisie.
Il y avait aussi, juste avant, pardon, il y avait quand même Laurent Ruquier, On n'est pas couché, et ça je pense que c'est aussi important.
J'ai pas été viré, j'ai gagné de l'argent.
Est-ce que vous êtes resté longtemps en plus?
Trois saisons, voire même quatre d'ailleurs, quatre, je crois.
En 2018, donc.
Rush Rammer. C'est joyeux aussi, non?
Mais surtout, quel rapport avec la pièce de théâtre dont on va parler. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que vous écoutiez cette musique avant d'entrer sur scène?
Non, parce que c'est 2018, c'est ça?
Oui, ouais, le bah, prénom.
Je crois que c'est peut-être que c'est un morceau qui sort à ce moment-là. Je sais pas, mais je sais que c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté avec mes enfants. Et ça, c'est assez cool. C'est quand les enfants grandissent et qu'on commence à échanger des choses. C'est-à-dire, moi, je leur ai fait découvrir. Mais il y a un moment donné où ils ont un
eux
âge.
Eux aussi vous font découvrir.
Vous font découvrir. Je sais que c'est eux qui m'ont fait découvrir Ray Schremer et j'adore ces deux frères, je crois. C'est deux frères. Hein, ils sont frères, hein, c'est ça. Ouais.
Et sur scène, vous êtes dans le prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière au théâtre Édouard VII, avec Lilou Fogli notamment.
Absolument.
Justement, ce qui vous mène dans une tournée de je sais pas combien de dates.
Ouais, une centaine de dates, je crois. Ça a été un vrai succès. Ouais.
Et
ouais.
Aussi en parallèle, quotidien.
Ouais, absolument.
Où vous intervenez sur le plateau, où vous avez une chronique. Pour évoquer le futur.
Ouais, 2217, je crois que ça s'appelait.
Ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Je parlais de l'invité, mais 200 ans après, comment on le voyait.
Ouais. Et c'était bien reçu ou pas, à chaque fois?
Oui, je crois. Ouais. Ouais, c'était pas méchant.
Non, parce qu'on peut toujours.
Et puis 200 ans après, on peut passer l'éponge.
Il y a
prescription, voilà, c'est ça. Le roman photo s'appelle Qui a volé mes jambes, publié dans la collection Studio Mogul aux éditions du Seuil, avec ses jambes, objets de fantasmes et de fétichisme dans le roman photo, mais pas uniquement, justement. Céline Cos, merci de venir à ce micro. Vous êtes psychanalyste, psychiatre, sexologue et auteur de deux livres qui se complètent, La sexualité féminine dans tous les ébats et La sexualité masculine dans tous ses ébats, tout ça chez Fayard. Sommes-nous tous fétichistes? C'est la question. D'avoir la définition du fétichisme, c'est de s'attacher, pas forcément à un objet, ça peut être à une partie du corps, mais ça peut être aussi à une couleur, à une ambiance.
C'est en tout cas qu'est-ce s'attacher à quelque chose qui n'a pas vocation érotique habituellement. Donc ça peut être un objet, ça peut être une matière, ça peut être un uniforme,
donc
ça peut être même une situation.
Une paire de seins, non, puisque ça, c'est sexualisé.
Bah oui,
c'est ça. Oui. J'ai dit une bêtise ?
Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai une paire.
Généralement, ça va pas.
C'est ça,
descend, oui.
Alors, oui, c'est pas stricto sensu.
La dernière fois, j'en ai vu deux en même temps.
Stricto sensu, ce n'est pas du fétichisme.
Voilà, c'est ça, ma question.
Parce que, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être excités par une forme de sein en particulier et rien d'autre. Et donc, à ce moment-là, ça fait quand même partie du fétichisme parce que ça leur limite.
La frontière est fine,
dans leur excitation, en fait.
Okay. Alors, moi, j'avais lu, vous me direz, je sais pas, hein, mais que c'est Alfred Binet, un contemporain de Freud, qui a introduit le fétichisme, je crois, fin 19e, en décelant chez un de ses patients une adoration pour les bonnets nuits parce que ce patient, donc ce type, quand il était petit, voyait sa mère aller se coucher avec un bonnet nuit et avait.
Fantasmé autour du bonnet nuit.
Et pour lui, c'était le prolongement de l'image de la femme. Et donc, il ne pouvait pas avoir de rapport ou pas avoir de désir tant que sa partenaire ne portait pas un bonnet nuit.
Moi, pareil. Oui. Moi, pareil. Hein. Tu mets,
et en fait, c'est ça.
Et heureusement qu'elle ne portait pas un Bob Paul Ricard, elle serait devenue alcoolique. Hein.
Et en fait, c'est ça. C'est une sensation de plaisir qui se crée dans une situation particulière avec un objet particulier. Ça se cristallise sur un objet. Et avec le système de récompense, plus on va penser à l'image, plus le système de récompense va se mettre en place. Et au bout d'un moment, surtout à l'adolescence, quand l'érotisme vient en place, ça se cristallise sur cet objet-là et ça devient nécessaire pour stimuler, pour avoir l'excitation sexuelle.
Voilà. Ça veut dire que ça se génère à l'enfance ?
Enfance, adolescence, ça dépend un peu des situations et ça dépend en fait de l'histoire du sujet. Mais oui, ça peut se mettre en place dès l'enfance comme plus tard à l'adolescence.
On est tous fétichistes en fait.
Mais en général, pas. Non, non, on n'est pas tous fétichistes parce qu'on n'a pas tous été stimuler de cette façon-là.
Mais il faut naître à 20 ans.
Est-ce que ça peut intervenir plus tard, après l'adolescence, est-ce qu'on peut d'un coup craquer sur des jambes, sur des chevilles?
A priori, mais c'est beaucoup plus rare. Parce que déjà, la plasticité cérébrale est beaucoup moins forte passé l'adolescence. Et qu'en général, les expériences se multiplient à ce moment-là.
Okay.
Donc, il faut vraiment que les expériences se répètent toujours la même pour que ça se fixe.
Est-ce que le fétichisme est forcément lié à un objet ou à une partie du corps, ou ça peut être aussi quelque chose d'immatériel, comme une lumière, une odeur?
Oui, ça peut être une odeur, tout à fait. Ça peut être, c'est pas forcément un objet, ça peut être une odeur, mais ça peut être aussi une
l'image
situation.
L'image qu'on a, pour moi, dans ma tête, le fétichisme, j'imagine immédiatement un objet.
Et bien, les plus fréquents, c'est les pieds. Donc ça, c'est universel. Ouais. C'est vraiment universel.
Alors là, on a et on l'explique. Enfin, pourquoi il y a ce cette majorité de
il y a des explications. Il y a des explications. Elles valent ce qu'elles valent. Ce serait le fait que dans le cortex somatosensoriel, la zone du pied jouxte celle des organes génitaux et qu'il y aurait donc des câblages qui puissent se faire très très proches. Oui. Alors ça, c'est une explication. C'est pas forcément démontré. Il y a aussi le fait que
toutes les terminaisons nerveuses, en tout cas, vont au pied dans l'acupuncture, ça c'est prouvé. Ouais.
Dans le petit enfant, eh ben, il est à hauteur de jambes et de pieds. Donc peut-être que ça aussi, ça fait que ça se cristallise beaucoup plus sur les jambes et sur les pieds. C'est beaucoup plus masculin aussi que féminin, parce que les hommes sont beaucoup plus sensibles à la vision que les femmes. Donc, et on sait que les fétichismes, c'est voir déjà.
Et alors les femmes seraient fétichistes de quoi ?
Eh ben, elles sont beaucoup moins fétichistes.
Ah ouais.
Quand elles le sont, par exemple, les femmes, ce qui va les exciter particulièrement, c'est pas de voir quelqu'un en dessous, mais c'est de porter des dessous, par exemple. Ou de porter des talons hauts, ou donc de porter des bas.
Donc de créer l'envie.
C'est pas tout à fait la même chose, ouais. Ouais.
D'accord. Enfin, c'est étonnant. Pourquoi les femmes n'auraient pas droit aussi à avoir
Ah, mais c'est pas qu'elles n'ont pas le droit. C'est que je pense qu'elles, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit. C'est que culturellement et socialement, les femmes sont moins portées à voir que à être excitées par le voir, et elles vont être beaucoup plus excitées par le toucher. Donc ça favorise moins le fétichisme en fait.
Une question, Julien.
Une question, docteur. Ouais. Vous disiez, ça peut être des situations. C'est quoi comme genre de situation?
Ben par exemple tout ce qui est en train avec
Pourquoi tu parles comme ça? On dirait déjà que t'es malade.
Tout ce qui est en train avec le sadomasochisme. Donc les situations, par exemple le shibari au Japon, où on est attaché, tout ça, ça fait partie du fétichisme.
C'est déjà dans la pratique, quoi.
Et ben écoutez.
Et c'est pas forcément un trouble, hein, d'ailleurs. Ça devient un trouble quand ça crée une souffrance chez le sujet.
Tu sais, si quelqu'un chez Fayard te demande des invitations, demande-lui en échange la sécurité masculine dans tous ses ébats. Comme ça, tu pourras t'intéresser à l'ouvrage masculine-féminine. D'ailleurs, les deux existent, signé Céline Cos. Merci d'être venu à ce micro.
Merci à
Céline. Dans quelques instants, Tanguy Passureau, dans la prochaine demi-heure, tu vas nous parler de quoi?
Alors, parfois, il faut s'engager, Nagui, hein, parce que je vais parler des pépitos, les petits biscuits qui sont plus foncés d'un côté que de l'autre.
Ah ouais. Très bien. Jonathan Bombé, notre invité, c'est jusqu'à 12h30 sur Inter.
Un message.
C'est la bande originale avec Leïla Kadouboudi, avec Bruno Pecky, Julien Santini, Rol de la Tanguy Passureau et notre invité R. Jonathan Lambert.
Bande originale.
Merci. Vous y tenez au R, c'est gentil.
Ouais, mais on vous aime, Jonathan Lambert, malgré les apparences. ce roman photo avec Valérie Lemercier, avec évidemment Jonathan Lambert, mais Valérie Lemercier, l'éditrice Nathalie Friesman, Fishman, Kian Kojandi, les enfants, la famille, les proches et sûrement des cousins inconnus de la famille de Jonathan Lambert, Vincent Dedienne, Fred Testo, Lilou Fogli, qui j'ai encore
oublié, Nadia Rose,
Christian Louboutin, Nadia Rose,
Thaïs Vauquier,
enfin tout ce beau monde réuni devant l'appareil photo de Stéphane Gladieux, photographe non seulement de Jonathan Lambert mais aussi du pape.
C'est vrai.
Je vous laisse réfléchir quelques minutes. Pour rendre hommage à Pierre Moulinier, artiste donc du XXe siècle, fétichiste,
assumé. Mais fétichiste de ses propres jambes, c'est ça qui est assez amusant. Il trouvait qu'il avait très belles jambes et il a continué de se photographier jusqu'à ses 60. Il est mort à 76 ans.
Il paraît qu'il s'épilait, il mettait des talons, des jartelles.
Il trouvait qu'il avait des jambes magnifiques qui n'allaient pas du tout avec le reste. Et c'est vrai que quand on voit les photos, c'est des jambes qui ça ressemble pas au reste parce que la tête était pas. Ah oui, non, c'est assez troublant.
Mais vous-même, vous avez très belles jambes.
Ah, je sais pas.
Ah ouais. On touche un truc.
Et donc là,
on touche quelque chose.
Pas bien. Je sais plus. Donnez-moi de l'argent.
Mais parce qu'en plus vous allez aller loin, plus loin que le roman photo.
Oui. Non mais à partir d'aujourd'hui, si on veut voir le travail de Pierre, merci Leïla, si on veut voir le travail de Pierre Moulinier, il y a la galerie Valois rue de Seine à Paris qui lance depuis aujourd'hui une exposition qu'on a appelée Tout en jambes où on rend hommage au travail de Pierre Moulinier mais aussi à d'autres, d'autres artistes. Il y aura d'ailleurs des dessins de Christian Louboutin, de Louise Bourgoin, voilà, d'artistes comme Tommy Ungerer, voilà, beaucoup d'autres, et notamment une vingtaine de photos de Pierre Molinié. Donc c'est l'occasion de découvrir son travail en vrai, si je
peux dire. Vous êtes un vrai curateur maintenant. Il y a déjà l'exposition encore en cours sur
les échecs. Non, l'exposition chez Perrotin, elle est terminée, mais c'est le hasard du calendrier. C'est vrai que deux fois, bah, j'aime bien maintenant, on m'appelle commissaire Lambert. Je
trouve
ça
très chic.
Hasard du calendrier, vous publiez un roman photo et vous serez dans des librairies pour le dédicacer pendant ce mois de mars.
Aussi.
Vraiment, ça tombe bien.
C'est vrai. Ouais, ça, franchement, le monde est bien fait.
24 mars, vous serez au Havre à la librairie La Galerne. Le 27 mars à la Fnac de Montpellier. Et le 28 mars, entre autres, à la Fnac de Marseille. Jonathan Lambert avec nous jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau.
Ah oui. Bravo.
Et aujourd'hui, c'est vendredi 13, ça fait peur. Et en même temps, j'espère que vous avez joué à l'Euromillion.
Oui.
Voilà, toutes les banalités sur ce jour nul ayant été dites, passons à un sujet de fond, les pépitos. Oui, les petits biscuits, je sais que vous auriez aimé un humour plus engagé. Ma carrière, ça a été la plus grosse erreur de casting de l'histoire à égalité avec Emmanuel Macron. Les pépitos, on est d'accord que c'est rassurant. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, un pépito, c'est un pépito. On retrouve le goût de notre enfance. Imaginez Dubaï, un missile iranien approche de la ville. Au 117e étage de la Bling Bling Tower, la française Lola Bowles, la célèbre influenceuse Saucisse Cocktail, hurle « Non, je peux pas mourir, j'ai même pas fini de rembourser le crédit de mon nez ». Affolé, il se précipite vers son placard. À cause de son opération de la cornée, il voulait des yeux bleus, malgré ses origines laotiennes. Elle ne le voit pas, se tape la tête dans la porte du meuble. « Purée, sur la vide poupette Kenza », hurle-t-elle. « Sûr, j'ai abîmé ma pommette neuve ». Quasiment aveugle, telle Sarah Knafo le jour où elle regarde son manteau jaune et qu'un rayon du soleil vient réfléchir sur le tissu pour finir sur sa face, Lola Bowles tend la main. Elle la sent, elle la touche, la boîte de pépito. Elle extrait un biscuit de la boîte, le bouffe direct, puis 10 grâce à ses implants dentaires au nombre de 80. Et là, elle se souvient, wesh, c'est comme la maladelle à Madeleine à Proust, se dit-elle. Ça rappelle trop genre le 4 heures chez mamie. Elle se sent bien. En live sur TikTok, elle lèche les miettes sur le sol, puis une missile percute son penthouse et elle meurt. Voilà, désolé dans mes chronique, les cons meurent. Si vous n'êtes pas encore mort dans un de mes papiers, c'est soit que vous n'êtes pas con, soit que vous êtes con, mais que je vous aime bien. Bref, les pépitos. L'autre jour, j'étais sur le site de Bruno Retailleau, rassemblementnational.fr, et à côté, j'avais un onglet ouvert sur X, le réseau de dingo d'Elon Musk. Hein, que j'aime bien, parce que ça ressemble à la salle de sport. Il y a des mecs qui viennent canaliser leur rage, mais au moins, ça sent pas la sueur. Ou alors, c'est que c'est moi, parce que dans ce cas-là, il y a que moi et l'ordinateur. Et l'ordi ne transpire pas. Ou alors, c'est quelqu'un déguisé en ordi. Et vous comprenez les gémissements de plaisir qui se faisaient entendre quand vous faisiez entrer 5 fois de suite pour marquer les paragraphes. C'est tiré par les cheveux, ce truc de gens déguisés en ordi, se dit Julien Santini. Même moi, j'arrête pile le propos avant ça, se dit-il encore avec une moue d'égout qui lui donne un faux air de Mick Jagger, s'il avait décidé de se coiffer comme Richard Cochiante. Je précise que cette vanne sur les cheveux de Santini est motivée par la jalousie. C'est comme quand je fais une blague sur la capacité d'emprunt de Nagui. Moi, à la banque, on me dit non, et ensuite, quelle est votre demande? Je suis le seul à vivre à la banque une partie de Géopardie. Si vous avez plus de 110 ans, vous ne la comprenez pas, c'est normal. Ça revient à faire une blague sur Jackie Quartz. Là, au moins, je pourrais faire une vanne sur les cheveux sans que ce soit motivé par la jalousie. Bon, mais le temps passe, et je n'ai toujours pas parlé des pépitos, parce que mes chroniques, c'est une intro de 4 minutes 10, un développement de 20 secondes et une conclusion décevante. Sur X, un internaute qui faisait ses courses, je vous explique, a posté une photo d'un paquet de pépitos, sur lequel il n'avait pas marqué pépito, mais super copine. Vous me connaissez, je suis conservateur. Hein, CNews, ils ont refusé ma candidature en me disant qu'ils étaient trop progressistes pour moi. Chez Nesquik, le remplacement de Grokwik par un lapin, ça date de 1990, je m'en suis toujours pas remis. Hein, moi, j'ai horreur des changements de nom. L'Accord Arena, j'appelle ça Bercy. La maison de la radio et de la musique, j'appelle ça la maison de la radio. Si je croise Céline Pigalle, notre nouvelle boss, je vais lui dire « ça va, Adèle ». Comme j'ai un mental très fragile, le même que Trump, mais sans armée. J'ai besoin que tout soit très structuré autour de moi. En tournée, il faut que je dîne à 19h si ça joue à 20h30, 18h45 si c'est 20h. Les trois quarts des salles de France m'ont déprogrammé en disant à ma production que j'étais moins fun qu'Yves Duteil. Et là, Pépito, qui s'appelle Super Copine, je me suis dit, c'est un coup des woke. Sandrine Rousseau a dû se faire retourner la tête par la communauté mexicaine, 4 personnes en France. Elle a appelé le groupe Lu en disant le sombrero du gosse discrimine les latinos et Rose des Putas, j'arrive. Et les mecs de Lu, craignant d'avoir à se taper une conversation avec Sandrine Rousseau, ont appelé ça Super Copine. Et sur X, vraiment, il y a plein de gens qui se sont mis à râler. Oui, on peut plus rien dire. Coluche aujourd'hui sera obligé de faire du mime. Bon, les trucs habituels. Et même moi, je trouvais ça idiot de rebaptiser le biscuit Super Copine en gardant la mascotte du garçon mexicain. Je suis sans doute réac, mais le gamin de chez Andros avec les poires dans les cheveux, pareil. On n'a pas envie de lui dire, hey, poulette, je croquerai bien tes fruits. Avant tout parce qu'on serait en train de discuter avec de la confiture. Bon. Alors, explication, j'ai cherché
chercher. Pépito s'appelle toujours Pépito. Ah. Ouf. Hein, on va pas non plus laisser les Mexicains nous dicter ce qu'on a à faire dans notre pays. En fait, ce sont juste des paquets collector. Il y a Super Copine, donc on offre à sa meilleure copine.
Okay.
Il y a aussi Super Papa. Voilà, pour autant, est-ce que le Mexicain prépubère qui sert de mascotte au Pépito a enfanté ? Non, non, on n'est pas dans les Ardennes belges. Sinon, il serait appelé Ryan avec deux N, pas Pépito. C'est pareil avec les bouteilles de coca. Parfois, j'en prends une dans un café. Dessus, il y a écrit Laetitia. Bon, bah, est-ce que je vais dans les toilettes et que je ressors en jupe ? Non, non, et pourtant, ça casserait la routine. Ça ferait déconstruit. En interview à Télérama, je dirais que le premier pas d'un projet artistique global qui va mêler humour, poil aux jambes et réflexion sur le genre, j'aurais la profondeur que je n'ai pas. En attendant, Pépito s'appelle Pépito. Ouf, c'est bon, ouais. Voilà, on confirme, il nous reste au moins un repère dans cette époque incertaine.
Merci, j'ai une bonne.
Et Tanguy sur scène, tu seras à Saint-Vallier, près de Valence, le 20 mars.
Oui.
Jonathan Lambert est notre invité, nous parlons de ce roman photo publié au Studio Mogul, la collection Studio Mogul au Seuil, qui a volé mes jambes avec au casting, en plus de Jonathan Lambert évidemment, Fred Testo, Vincent de Dienne, Lilou Frogli, Nadia Rose, Valérie Lemercier, Kian Kojandi entre autres, et puis d'autres événements culturels.
Oui. Leïla. Si je vous dis, je crapote à Montrouge et je promène un Bee Gees.
Le Camoulox.
Bravo, ouais, Camoulox.
Ça revient, je crois, non ?
Le retour du Camoulox a été annoncé. Cadet Olivier réinvente cette émission. Elle sera revisitée avec des micro-fictions, avec des parodies et à nouveau des numéros du jeu. Le tournage serait en cours. Donc, vous vous souvenez...
Parce que Philippe Dana fait la voix off.
Ah ouais. Jamadou Mariam et Je jette mamie dans les orties en casse-poulpe moldave. Notamment, le tournage est en cours, ce faux jeu télé aux règles complètement absurdes et aux réponses aussi complètement absurdes. Ce jeu qui a été créé sur Oui FM, ensuite qui est passé par Comédie et finalement pour atterrir sur Canal+. Au point que Camoulox est entré dans le langage courant. Quand quelqu'un dit quelque chose de complètement incompréhensible, on dit Camoulox.
Et quand on fait un pilote d'un jeu dont on ne comprend pas les règles soi-même, on appelle ça le Camoulox. Ouais, bah, allez.
Vous étiez...
Et je sais de quoi je parle.
Le retour du Camoulox, c'est quand même une super nouvelle. Ouais. Quand on a particulièrement suivi cette émission parodique, vous la suiviez assidûment ?
Ah bah j'ai tourné un truc pour eux là, donc bien sûr, j'adorais. Je trouvais que c'était, j'adorais l'idée de trouver ces phrases. Là, par exemple, je mange un pépito et je saisis une équation pour Jartel. Tout mais était possible.
Et vous ne pouvez pas parce qu'il y a Marcel Beliveau en opposition.
Exactement.
c'est toute une génération.
J'adorais ça. Vraiment, c'était.
Oui, mais alors le problème, c'est qu'ils vont devoir se réinventer ou se servir justement des codes et des vannes qu'ils ont déjà faites.
Moi, je pense que c'est l'association de mots qui il suffit
c'est
de faire référence plus moderne
et que ça fonctionne. Oui,
mais les personnages qu'ils créent aussi, c'est-à-dire celui qui était l'ébéniste, qui touchait l'eau de la piscine pour voir si elle est bonne ou pas bonne. Enfin, c'est quand même tout d'un coup, c'est une création quoi derrière.
Mais je pense qu'on peut trouver de nouveaux métiers aussi du même genre.
Et vous faites quoi alors ? Vous pouvez nous dire un peu ?
Qu'est-ce que je suis ? Ah oui, c'est un médiateur corporel. C'est quelqu'un qui communique avec.
Qui communique avec quoi ?
Communique avec les maladies.
Et donc ça, c'est à découvrir bientôt à l'antenne ?
Ah, je sais pas, moi, j'ai juste tourné.
Ouais, vous tournez. Autre question, si je vous dis Dominique Farrugia, Laure Calamy, Cédric Clapiche ou encore Denis Podalydès ? Quel est le point commun ?
Ils vont tourner dans un film.
Non plus, c'est pas un casting, c'est pas les membres d'un jury.
Ils sont fétichistes.
C'est en lien avec l'actualité, avec une actualité très très proche. Nous sommes vendredi
Ils soutiennent Emmanuel Grégoire.
Alors, pas tous, mais en tout cas, ils ont apporté leur soutien à un candidat qui est en course pour les municipales. Laure Calamy, Cédric Clapiche, Denis Podalydès apportent en effet leur soutien à Emmanuel Grégoire. Dominique Farrugia apporte son soutien à Rachida Dati.
Et c'est un Suisse qui connaît la réponse.
Absolument, absolument. Premier tour des municipales ce dimanche. Coxy, vous l'avez vu, a apporté son soutien à Sarah Knafo. Ouais. Ces soutiens-là se sont multipliés au sein de la capitale, mais aussi dans d'autres villes, à Lyon.
Je crois qu'elle est candidate. Hein,
Oui, elle apporte. T'as raison. Elle est candidate dans le 13e ou le 14e arrondissement. Coxy, absolument.
Elle est dans la liste, quoi.
Elle est dans la liste. Donc, non seulement elle soutient, mais en plus, elle représente.
Ah, bah, il faut déjà soutenir pour y aller.
À Lyon, c'est la même chose. Il y a plusieurs personnalités qui se sont positionnées. André Manoukian s'est positionné en faveur de Grégory Doucet, le maire actuel. Benzema pour Jean-Michel Aulas. C'est le cas dans d'autres villes où tout d'un coup, beaucoup de personnalités.
Moi, je vais l'annoncer ce soir.
Benzema. Non, c'est trop drôle. Benzema vote encore à Lyon.
Je l'ignore.
Oh,
ça la vraie info. Ouais.
Ouais, en tout cas, il soutient son ancien président. Est-ce que, justement, vous êtes tenté par... j'ai l'impression que pour les municipales, c'est plus facile de sortir du bois que pour les présidentielles, où les artistes sont de plus en plus frileux à l'idée de s'exprimer et de donner leur orientation politique.
Moi, tout ce que je dis, c'est que je vote à chaque fois.
Ouais.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller voter blanc, mais je considère que voter, c'est... on sait que, voilà, c'est pas... Enfin,
c'est une chance.
C'est une chance, donc il faut la saisir, et c'est à la fois, bien évidemment, un droit, mais je pense qu'il y a une partie aussi de devoir citoyen, de... Parce que j'aime pas les gens qui disent « Ah, oh, on se retrouve avec un tel, machin, mais t'as été voté ?» Ben non, parce que machin...
Oui.
Donc je pense qu'il faut avoir au moins cette...
Pour avoir vos chapitres, il faut...
Voilà, au moins dire « J'ai participé ». Après, chacun est responsable de ses envies.
Comme en Belgique, je crois qu'il y a une... Je pense,
une obligation.
Il y a une amende. C'est pas obligatoire, mais en Belgique, il me semble que c'est obligatoire.
Oui.
Je crois qu'il y a une amende de 15 balles ou 20 balles si on va pas voter. Vous seriez pour ça?
Non, pas nécessairement, mais je pense que, après, je sais pas comment on peut rendre la chose obligatoire, mais bien signifier.
Peut-être
que,
en la simplifiant comme aux États-Unis aussi, en pouvant voter à distance.
Peut-être aussi, et puis de reconnaître davantage aussi le vote blanc, qui est
carrément
une démarche,
oui,
qui est une façon de dire, c'est une façon de dire qu'on se reconnaît pas dans les candidats qui sont dans la liste.
Vous seriez tenté par, justement, appartenir à une équipe?
Pas
municipale, à la culture.
Non, pas du tout.
Ouais.
Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à même, vous savez, mais même par exemple, parfois, on me propose d'être membre de jury, tout ça. C'est des choses, ça me rend très mal à l'aise. Alors, sauf si je suis complètement extérieur au domaine, mais quand c'est quelque chose qui me concerne, si on me dit tu vas être jury d'un truc, un gala d'humoriste, ça me gêne terriblement. Parce que je me dis non, je vois pas pourquoi moi je peux considérer qu'un tel est drôle. C'est un truc. Voilà. Donc, pareil en politique, j'ai ce truc où je me dis, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de courage pour se lancer là-dedans, et j'ai aucun doute sur la sincérité de celles et ceux qui se lancent là-dedans, et de ceux qui apportent leur soutien,
La réflexion souvent est de dire écoutez, votre métier est de faire des livres, de faire des chansons, ou de faire des films, ne venez pas nous dire ce que l'on doit penser. C'est souvent en tout cas la réflexion qu'on a eue, et puis il y a eu pas mal de retours de manivelle aussi, non ?
Il y a une tradition de l'artiste qui soutient, plus facilement pour
les
municipales.
Dans tous les pays du monde, d'ailleurs.
Hein, plus facilement pour les municipales, j'ai l'impression. Pour les présidentielles, maintenant, les artistes sont un peu plus frileux parce que, justement, il y a eu des retours de manivelle et des carrières qui ont été un peu compliquées.
De toute façon, tout mon programme est dans le roman photo. je risque pas d'être élu.
Et si vous étiez président,
oh là,
que feriez-vous
quoi?
De la France, monsieur.
De la France. Ah là.
Plus haut
la
pays nation. Du monde, oui.
je ne sais pas.
Première décision.
Un roman photo.
Ouais, voilà. Roman photo pour tout le monde.
Non,
je me suis jamais projeté dans ce domaine-là. C'est quelque chose.
Vous avez même pas un combat qui ne soit pas politique, parce que.
Ah bah si, bien sûr. Mais là, résumé. Et puis quand on parle d'un combat, on peut penser que mais il y a ça aussi dont il a pas parlé.
Oui.
Je trouve que c'est très compliqué de résumer en quelques secondes ses engagements.
Non, mais ça pourrait être sur la santé, sur l'éducation, sur l'écologie.
Oui, mais dire des banalités, de dire il faut être plus responsable. Il faut. Je pense que. Quand il faut être très investi, et c'est assez facile quand on a la chance, comme nous, d'avoir un micro ouvert de temps en temps, de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je considère que j'ai pas suffisamment de légitimité pour.
Alors il y a une différence entre dire aux autres ce qu'ils doivent faire et dire ce que vous faites vous.
Ah oui.
Et en disant si ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux. Sinon, faites ce que vous voulez.
Bah, prenez du plaisir, voilà. Ce serait
mon programme. Très bien. Notamment à lire donc qui a voulu. Voler mes jambes, R. Jonathan Lambert signe ce roman photo au studio Mogul au Seuil, qui réunit plusieurs de ses passions, celle de l'humour évidemment, celle de l'intrigue ou de l'histoire racontée, mais aussi celle de l'art contemporain, de l'absurde aussi.
Du burlesque aussi.
Et du fétichisme un tout petit peu sur
scène. Ouais, enfin c'est... Ouais.
Si, sûrement. Vous allez participer à LOL qui ressort, c'est annoncé.
Ouais, ça a été annoncé. Ça,
en duo.
Ça, je peux pas dire grand-chose, mais ça, je peux le dire.
Vous pouvez dire que c'est des duos.
C'est des duos. C'est une sorte de nouvelle règle qui fait que au départ, on arrive en duo, et la particularité fait que si l'un rit
ou en trio, parce que je crois que
il y a Jérémy,
Ferrari,
sa mère
et
le Caplain qui sont en trio.
Pour
les autres, ce sont des duos, et effectivement, quand l'un rit, ça condamne également l'autre. Donc
Je ne sais pas comment les duos ont été faits, parce que Alban Ivanov, par exemple, était avec Paul Mirabel.
La ressemblance.
Peut-être les deux qui étaient tout seuls au départ.
Elena
voilà.
Naga Pétian est avec Guillaume. Marine Leonardi avec Paul de Saint-Sernin. Donc il y aura Ferrari, le Caplain de sa mère, mais ça, le trio qui
Bien
est
sûr.
Rodé
ah ouais.
avec de nombreux spectacles et de nombreuses tournées. Et vous serez avec
CAD.
Je ris déjà.
Ça vous fait rire. Vous avez perdu dès le début.
Parce qu'on est potes et que quand on m'a dit tu vas être à CAD, j'ai dit mais vous êtes sûr parce
ah,
que
vous, je... ah, c'est pas vous qui avez choisi.
Non, enfin, CAD. On nous propose. Voilà. Et puis quand on m'a parlé de CAD, parce que CAD voulait aussi être avec moi, je l'ai appelé, je lui ai dit mais CAD, tu sais bien que si on est ensemble, je vais rire très très vite parce qu'il me fait beaucoup rire. Voilà. Et voilà. Je peux rien dire d'autre, bien évidemment, si ce n'est que j'ai pris beaucoup de plaisir, justement.
Ça a été tourné donc.
Ça a été tourné.
Est-ce que tout est... est-ce qu'il y a beaucoup de préparation à faire avant? Parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'improvisation, mais il y a quand même les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, les cartes...
Oui, les cartes joker. Les cartes joker, voilà. Bien évidemment écrites, travaillées.
Par vous, par d'autres?
Bien sûr. Enfin, après, il y a aussi des auteurs qui peuvent vous aider. Moi, en l'occurrence...
Vous avez des accessoires particuliers?
Oui. Des accessoires.
Des jambes?
C'est pourquoi pas.
Est-ce qu'on peut avoir un Damien Béziers qui revient par surprise?
Je ne peux absolument rien
ça
dire.
Va, John.
C'est le plus gros contrat que j'ai signé en termes de volume, donc je vous assure que c'est...
Et surtout en anglais, vous n'avez rien compris.
C'est ça. je ne sais pas où ça me mène tout ça. C'est une expérience très intéressante. Sincèrement, parce qu'il y a quelque chose d'assez expérimental à être enfermé comme ça pendant plusieurs heures et d'avoir cette interdiction. C'est assez...
Est-ce que ça vous a surpris d'être le duo qui gagne justement cette saison?
Je n'ai pas le droit de répondre.
J'aurais tout essayé. Depuis un an maintenant à peu près, vous faites un podcast. On parlait tout à l'heure de votre amour de la radio. Vous faites un podcast avec votre pote, autre pote, Fred Testo.
Ouais. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Qui a pour vocation de faire connaître des gens qu'on considère délicieux. Et donc on leur dit, tenez, goûtez, c'est délicieux, écoutez. Et non, mais la particularité...
Ça dure 30 secondes.
C'est quelque chose, là, pour le coup, que j'aime beaucoup. Je suis assez curieux, surtout quand ce sont des gens que j'aime, de connaître leur parcours. Donc on les interroge bien sûr là-dessus. Mais au-delà du ton, de notre tempérament, de notre complicité à moi et à Fred, il y a un petit twist qui est assez marrant, c'est qu'on a instauré ce qu'on appelle le pain surprise. Et c'est l'invité qui vient avec son propre invité, surprise, qu'on ne connaît pas, et qui est une façon de découvrir un autre pan de sa personnalité, parce que c'est soit
qui est quelqu'un d'inconnu,
qui est quelqu'un qui peut être connu, inconnu. Ah. Monsieur Poulpe est venu avec sa fromagère parce que voilà, il achète son fromage chez elle. Manu Lévy est venu avec son prof de tennis, mais Sarah Poniatowski est venue avec Mademoiselle Agnès, Jérémy Ferrari est venu avec le chien et le dresseur qui joue dans son film. Oui. Donc c'est une façon de découvrir les gens à travers un domaine qui est moins habituel.
D'accord. Est-ce que c'est à cause ou grâce à ce podcast que vous avez abandonné les matinales de France Inter que vous faisiez de temps en temps
Non, parce que ça a coïncidé, c'était en même temps. Mais
vous avez ce point commun avec Julien Santini, hein, c'est de nous lâcher quand on a besoin de vous. C'est ça.
Non, mais vous savez, les quelques matinales que j'ai faites, j'ai dû en faire 20 ou 4 ans. C'est vraiment quand de temps en temps, il y avait un chroniqueur qui ne pouvait pas, on proposait à moi ou à d'autres.
C'est ce qu'on demande à Julien. Lui dit non, et vous aussi, vous savez.
Je l'ai fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a cette liberté, le direct. C'est assez génial quand même ce moment où on se dit, il y a potentiellement X milliers, plusieurs dizaines de centaines. Voilà.
Vous dire un million, monsieur.
Ça reste X milliers de personnes. Non, mais je trouve ce phénomène, il y a que la radio encore et le direct qui bénéficie de ça. Je trouve ça génial.
Nagui, des excuses.
Excuse-moi.
À présent, vous êtes qui, pardon?
Non, mais est-ce que tu peux lui demander qui voudrait recevoir bientôt dans son podcast? Ça pourrait être intéressant.
Bruno Pecchi, des excuses à présenter, s'il vous plaît.
Oui, évidemment. Désolé déjà pour Julien Santini, qui a été dénoncé, stigmatisé, calomnié, parce que soi-disant, monsieur ne dépanne jamais les potes. Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que tout est vrai, donc tu as ce que tu mérites. Désolé pour moi et toute la génération Z qui ce matin a été complètement oubliée. Entre les expressions de Yeuve, les jeux de mots de très Yeuve ou les refs de trop Yeuve, encore l'utilisation du mot Yeuve. Vraiment, je sais plus en quelle année on est, en quel siècle. Nagui est déjà à l'antenne, j'ai plus de repères. Désolé pour Leïla, Nagui a profité de la pause pour déposer ton concept d'émission C'est tout coffre. Un programme en partenariat avec Alerte Enlèvement. Et le premier invité sera Julien Santini. Enfin, s'il est dispo, s'il est dispo.
À moins qu'il soit invité du podcast de Jonathan Lambert et de Fred Testo, qui s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux.
Rien ne se vend, mais tout s'achète, Julien.
Et c'est 20,90€ si vous voulez savoir le prix de ce roman photo Qui a volé mes jambes, collection Studio Mogul aux éditions du Seuil. Merci Jonathan Lambert.
Merci à vous, merci
d'avoir été notre invité. Passez une belle journée sur Inter lundi. C'est vrai que c'est le week-end,
bien sûr.
Ah ouais, génial.
Quel
Et on vote dimanche. Et on vote dimanche. Lundi, on se retrouve avec Michel Boujna. Passez un bon week-end. À lundi, merci.
Merci.